Europe 1 Culture Média.
Bonjour, bonjour à toutes et à tous. Ravi de vous retrouver pour Culture Média, au menu tous les médias, toutes les formes de culture. Aujourd'hui, par exemple, musique et littérature. Vous retrouverez également Bruno Donnet pour ses télescopages, Jean-Luc Lemoyne et sa session de rattrapage. Ce sera aux alentours de 10h et quelques minutes. Et dans quelques instants, le journal des médias et les audiences télé d'hier avec Frédéric Le Ternier qui sera avec nous toute la semaine. Notre info média va se pencher sur un phénomène de presse qui trace sa route, l'air de rien depuis 61, mais qui a fait parfois changer la loi de la République, les lois de la République même, dirais-je. Que choisir? Diffusion 590 000 exemplaires. Ça fait rêver beaucoup de patrons de journaux qui nous écoutent. Sans pub, sans programme télé, sans people en couverture. Nous serons avec Alain Bazot, le directeur de la publication de Que choisir. Nos invités ensuite, la productrice Caroline Delage, après le succès de son magazine Au Tableau. Elle vient nous présenter son dernier documentaire autour du foot et autour de l'autisme. 11 de légende. Enfin, le comédien José Garcia pour Le Torrent, film qui sort aujourd'hui avec André Dussolier et Ophélia Kolb. Un rôle tragique, mais il a également été choisi, dit la réalisatrice Anne Leny, pour ses talents comiques. Quel rapport? Il nous expliquera. Nous sommes ensemble jusqu'à 11h. Culture Média, c'est parti.
9h, 11h.
Europe 1, Culture Média.
Philippe Vandel.
Bonjour Frédéric Le Ternier.
Bonjour Philippe, bonjour à tous.
Toute la semaine avec nous au sommaire de votre journal des médias.
Alors on va parler du retour festif en mode fin d'année de l'émission Tous en cuisine avec le chef préféré des Français, c'est bien sûr Cyril Lignac, qui est à la manœuvre une nouvelle fois sur M6. On va parler de la décision d'Elon Musk de changer le nombre de caractères sur les posts du réseau social Twitter. Il passerait ainsi la limite de 1000 caractères en lieu et place des 280 possibles actuellement.
Vous l'apprenez à l'instant.
Eh ben, je vais vous en parler plus avant dans le journal. Du record d'audience aussi du streamer Amine qui a proposé un live nocturne, ça c'était sur Twitch. Et puis du rôle d'Alessandra Sublet dans un film sur Netflix, l'animatrice a décidé de se reconvertir.
Mais d'abord, comme tous les matins, le top 3 des audiences d'hier soir à la télé.
Et une fois n'est pas coutume, Philippe, c'est France 3 qui se met en tête du classement avec la série policière Alexandra L avec Julie Depardieu.
Non, une fois n'est pas coutume avec du foot en face.
Oui, c'est ça que je voulais dire.
Ouais, le foot, France 3 est très souvent en tête.
Ouais, mais le foot d'habitude c'est tous les jours.
Mais d'habitude c'est que depuis une semaine l'habitude.
C'est vrai. Plus de 4,5 millions de téléspectateurs pour cette série policière, ce qui fait 21,3% de part d'audience. Bon, quand même, le foot se classe très bien avec le match d'hier. Pays de Galles, Angleterre, vous savez le score du coup? Vous avez regardé, Philippe?
Pas du tout, j'ai travaillé.
Alors, 0 pour
le Pays
de Galles.
Le film de José Garcia, voilà très ce que bien. J'ai fait hier.
Et 3 pour l'Angleterre.
Ah si, je l'avais vu, 3-0, vous avez raison.
C'est quand même un très bon score, hein. Plus de 4,5 millions de téléspectateurs et 19,6% de part d'audience. Et se classe en 3e sur M6, les premières demi-finales de la France à un incroyable talent. 2,5 millions de téléspectateurs pour le programme et 13,1% de part d'audience.
Europe 1, le journal des médias.
Tous en cuisine, l'émission de M6 remet le couvert avec des menus de fête.
Et oui Philippe, le chef préféré des Français, comme je le disais, revient dans notre petit écran depuis le début de la semaine pour faire scintiller ces fêtes de fin d'année. Tous les soirs, du lundi au vendredi à 18h40, on va pouvoir réaliser ensemble une recette familiale. Alors lui, dans un lieu qu'il inaugure pour l'occasion, une nouvelle cuisine en plein cœur de Paris, dans une boutique. C'est à deux pas du marché Saint-Honoré et puis nous, tout simplement dans notre îlot central Ikea. Jérôme Anthony est à nouveau de la partie également. Il se déplace partout en France et il s'entourera d'invités mystères. Voici la bande-annonce en guise de mise en bouche.
Ah Jérôme, viens, j'ai plein de nouvelles recettes à t'apprendre.
Ah Cyril, c'est bon, tu peux fermer ton livre. Ah non, mais je me suis entraîné à fond, là, tu vas voir. Le croquant, le gourmand, j'ai tout compris. Résultat, je t'ai fait cette magnifique bûche de Noël. Regarde, tada !
Mais c'est une tarte tropézienne.
Ah ouais ?
Et en plus, t'as laissé le prix.
Ah mais ça je t'expliquerai.
Non mais te casse pas, j'ai compris. Jérôme, il faut que tu t'entraînes. Allez, on va apprendre à nos amis à faire une belle bûche de Noël. Allez, va te changer, je t'attends.
Ok. Eh, hey, on fera une dinde au marron?
Mais oui.
Ah super. Eh, hey, on fera une mousse au chocolat?
Avec de la menthe. Ouais. Même une pavlova au flux exotique.
Un peu exotique, je prends mon maillot de bain.
Tous en cuisine, menu de fête avec Cyril Lignac et Jérôme Anthony à 18h40 sur M6.
Et chaque jour de la semaine, on va suivre une thématique. Aujourd'hui, c'est mercredi. Ce seront les plats de légende mis à l'honneur. Tout à l'heure, si vous êtes d'accord, nous cuisinerons un canard à l'orange et du flan à la vanille.
On va citer nos confrères du Canard Enchaîné. C'est en une du numéro qui sort ce mercredi. Des journalistes victimes des barbouzeries autour du PSG.
Et je vous recommande de lire l'article. On nous parle d'un ancien policier du renseignement devenu responsable de la sécurité des supporters se livrant à du business. Il piochait visiblement dans les fichiers de la police pour renseigner des amis. Il est sur la touche aujourd'hui.
Alors vous nous l'avez dit, quelque chose change sur Twitter. Mm-hmm. Le nombre de caractères va changer. Encore des nouvelles d'Elon Musk.
Et oui, suite du feuilleton du patron de Twitter ces deux derniers jours, Elon Musk s'est longuement penché sur cette question. Des utilisateurs du réseau l'ont interrogé quant à la longueur des messages que l'on peut poster pour s'exprimer sur Twitter. 240 signes, c'est trop court selon Musk. Alors l'un d'eux lui a suggéré 420 signes, il a trouvé que c'était une bonne idée. Un autre utilisateur a renchéri en proposant jusqu'à 1000 signes. Il valide et annonce que c'est sur sa liste des choses à faire, sa to-do list. Il a déjà fait comprendre par le passé que ça l'intéressait. Aujourd'hui, il persiste et il signe. Le tweet long format, ça lui va.
Mais l'info s'arrête pas là.
Et non, ça va presque trop vite. Le journal Le Monde nous signale ce matin qu'hier, un communiqué émanant de l'entreprise californienne tombait et confirmait les inquiétudes de certains. Le voici, ce communiqué. À partir du 23 novembre 2022...
C'est-à-dire donc 23 novembre.
Oui, c'est ça.
Pas 2022.
Oui, 23 novembre. Il y a quelques jours, voilà. Twitter n'applique plus le règlement concernant les informations trompeuses sur le Covid-19. Au plus fort de la pandémie, on le sait, le réseau luttait contre, comme d'autres réseaux, sur les fausses informations de santé. Il signalait et retirait les messages, voire fermait des comptes au bout de 5 avertissements. Eh bien, c'est du passé. Elon Musk souhaite une liberté totale d'expression. Pour les experts médicaux, en revanche, ce changement risque d'avoir des conséquences.
On passe de Twitter à Twitch, on reste dans les réseaux sociaux. Un live nocturne, c'est la nouvelle idée du streamer Amine.
Oui, exercice étrange mais innovant que nous a proposé Amine, alias Amine Mathieu, sur la plateforme Twitch dans la nuit de vendredi à samedi. Ancien tweetos d'ailleurs, Amine, depuis 2012. C'était la période 140 caractères qui nous paraît bien loin. C'est là qu'il s'est fait connaître. Bref, il a su convaincre le public avec ce live nocturne. C'était un carton d'audience. Après avoir déjà fait des records de vues le 19 novembre dernier en organisant un match de foot France-Espagne entre streamers et youtubeurs en live au Stade Jambon à Paris, eh bien Amine s'était lancé ce défi, faire donc un live nocturne, se filmer de 21h à 9h du matin. C'est donc chose faite pour celui qui semble multiplier les bonnes idées. Dans la première partie, il a invité des vidéastes dans une grande villa sponsorisée par la marque Adidas. Et dans la seconde partie, il était en tête à tête avec Mr V, un youtubeur qui totalise lui aussi plus de 4 millions de vues sur sa chaîne. Alors de quoi ont-ils parlé? Eh bien de conduite automobile et de projets.
Mais t'as quel âge?
Ben j'ai 29.
Mais ça va, tu l'as eu quand, à 20 ans?
Je l'ai eu à 18 pile.
Ah, le code?
Oh, le go.
16 ans.
Oh, le go.
Masterclass, je suis masterclass, moi j'étais à mon prime à ce moment-là, j'étais loin d'être finito.
Et pourquoi t'as pas fait le GP Explorer?
Je dois pas en parler, mais on verra l'année prochaine.
Oh!
Alors, attendez, on
et
peut
du
avoir...
coup, attends.
Attendez, moi je vous demande...
Je dois pas en parler, mais peut-être qu'on sera l'un contre l'autre.
Clipez ça maintenant. Le match commence maintenant. Montre comment tu conduis à une main.
Et voilà pour les néophytes GP, c'est une course automobile organisée cette fois par Squeezie. Visiblement, les deux seraient tentés de participer l'an prochain. Bon alors ça, c'était l'un des moments sympas, hein, car il faut quand même dire que certains spectateurs ont juste regardé Amine dormir, c'est ce qu'il a fait entre 2h50 et 7h50. Après, si ça peut aider à trouver le sommeil, pourquoi pas.
C'est le retour d'Andy Warhol. Alessandra Sublet a décroché un rôle pour une série qui sera visionnable sur la plateforme Netflix.
Tout à fait, l'animatrice avait d'ailleurs dit renoncer à son premier métier pour se consacrer exclusivement à sa carrière de comédienne. Récemment, elle a même refusé la proposition de remplacer au pied levé Nikos Aliagas pour la présentation des Energy Music Awards. Lorsque celui-ci avait fait une chute sur le plateau de la Star Academy, on s'en souvient, eh bien c'est finalement Camille Combal qui avait pris les rênes du programme. Alors c'est dans la suite des Banlieusards, série réalisée par le rappeur Kerry James et Leila Si, qu'on pourra la voir. Alessandra Sublet camper le rôle d'une avocate en charge du stage d'un jeune de banlieue. Et c'est dans le sud de la France, il y a quelques jours, qu'elle a tourné ses scènes. Notez qu'elle prépare également l'adaptation en fiction de son premier livre qui s'intitulait T'as le blues baby. On peut dire qu'elle ne manque pas de projet.
Merci beaucoup Frédéric Le Ternier. Toutes ces infos à retrouver dans notre newsletter média. L'inscription c'est gratuit. C'est sur europe1.fr. À demain pour un nouveau journal des médias.
À demain.
Et on aura les audiences du foot dans l'après-midi. France-Tunisie à 16h. Dans un instant, notre info média du jour, on va vous donner tous les secrets de fabrication du magazine UFC Que Choisir. Du magazine Que Choisir. Il n'y a que les techniciens qui appellent ça UFC Que Choisir. A tout de suite sur Europe 1.
9h-11h,
Europe 1 Culture Média,
Philippe Vandel.
C'est une sorte d'ovni dans le paysage médiatique français, un mensuel papier diffusé à 590 000 exemplaires, ce qui est considérable, c'est presque un score d'hebdo-télé. C'est le quatrième mensuel de France, magazine en couleur, qui ne cesse de parler de voitures, de téléviseurs, de téléphones portables, de vélos électriques dernier cri. Et c'est toutefois le contraire d'un magazine consumériste. D'ailleurs, il n'y a pas de publicité dans ses pages. Vous avez sans doute reconnu le magazine Que Choisir, qui trace sa route depuis 1961. Et ça marche. cherche. Quel est le modèle économique de Que Choisir ? Sur sa couverture, il se dit indépendant. Quelle est son indépendance ? Il se dit expert. Qui sont ces experts qui testent pour nous les lave-linges, les matelas ou l'encre d'imprimante ? Et d'abord, comment ça se teste ? Et puis, dans le monde d'Internet, qui n'existait pas sous De Gaulle quand le magazine a été lancé, comment résister aux avis de consommateurs plus ou moins authentiques, mais de plus en plus suivis, car gratuits ? Pour répondre à ces questions, je suis heureux de recevoir le directeur de l'application de Que Choisir. Bonjour Alain Bazot.
Bonjour.
Vous êtes également le président de l'association UFC Que Choisir, association UFC pour Union Fédérale des Consommateurs. Pour les gens qui ne connaîtraient pas encore Que Choisir, comment présenteriez-vous le magazine ?
Ben, je vais le présenter simplement. Vous l'avez dit, c'est la revue d'une association. C'est une revue qui est indépendante, experte et engagée. Et donc indépendante parce que, vous savez sans doute, on est le seul magazine à ne pas faire de publicité.
Avec le Canard Enchaîné.
Avec le Canard Enchaîné, et effectivement.
Et avec des petites revues, mais enfin, voilà, c'est le seul grand magazine grand de grosse diffusion sans pub.
Voilà, et ne dépendant pas de l'État, parce qu'il y a un concurrent qui, lui, voilà, est produit par un établissement public.
Je vais en parler tout de suite.
Bah,
c'est 60 millions de consommateurs qui, au départ, s'appelaient 50 millions de consommateurs. Ils sont pas produits, ils sont aidés par l'État. Je vais retrouver mes notes publiées par l'INC, qui est l'Institut National de la Consommation. Qu'est-ce que ça change pour vous d'être associatif et non pas aidé par la force publique ?
Je viens de dire, c'est déjà l'indépendance. On ne dépend que de nos lecteurs qui achètent, qui s'abonnent à la revue, et vous l'avez dit, massivement, on a trouvé un public tout à fait considérable et qui est fidèle, et on espère grandissant.
Qu'est-ce que ça change ? Comme vous aviez cité votre concurrent, qu'est-ce que ça change pour 60 millions, par exemple ? Qu'est-ce qu'ils font que vous ne faites pas ? Ou qu'est-ce que vous ne faites pas que eux font ?
Déjà, on a une capacité, un des cœurs de production du Que Choisir pour les consommateurs, ce sont les tests. Mm-hmm. Bon, nous, on n'est pas seuls au monde. L'UFC Que Choisir, comme c'est une organisation, une ONG, on a organisé sur le plan mondial notre capacité à faire des tests. Avec la mondialisation, les téléphones portables, les tablettes, les réfrigérateurs, etc., sont des productions mondiales. Donc on a créé un groupe avec nos collègues mondiaux, les Américains, les Anglais, les Allemands, et donc on mutualise le coût des tests. Le coût des tests, c'est 2 millions d'euros pour notre revue, par an. C'est un budget considérable, parce qu'on achète les produits. Et donc on mutualise sur le plan mondial. Ce que ne peuvent pas faire nos collègues de 60 millions, parce qu'ils sont un établissement public, ils ne peuvent pas rentrer dans ce groupement d'institutions et d'ONG indépendantes. Donc, je vais prendre un exemple sur notre capacité à tester. Les smartphones, on va tous les tester. Sur le site, on a 290 appareils smartphones. Là où, par exemple, 60 va en publier une dizaine.
Et je dois dire, dans le numéro de ce mois-ci, il y a une chronique qui s'appelle Tester ailleurs, enfin une rubrique qui s'appelle Tester ailleurs, et Danemark sur le fil. Au Danemark, ils ont testé tous les fils dentaires, ou au Royaume-Uni, toute langue d'imprimante, ou alors en Suisse, ils ont testé toutes les marques de mouchoirs jetables. Voilà ce qu'on trouve dans Que Choisir. Pour être tout à fait honnête et pour clore ce chapitre, nous voulions recevoir également les gens de 60 millions et ils n'ont pas voulu être présents avec vous. On a dit votre diffusion, elle est de 590 000 et eux, le seul que j'ai de 2016, c'est 116 000, c'est beaucoup, beaucoup moins. Comment vous réalisez les tests ? Comment vous faites les tests techniques ? Comment on teste des hôtes aspirantes ou des matelas ? On met des mecs dessus qui dorment ? Évidemment non. Comment fait-on ? Comment ça se passe techniquement ?
Techniquement, on a recours à des grands laboratoires internationaux qui sont les mêmes que ceux utilisés par les professionnels. Et donc, c'est tout un protocole que les ingénieurs mettent au point, tous ensemble, les ingénieurs, je vous ai dit, sur le plan européen ou mondial ou que français, nos ingénieurs à nous, on fait un protocole, on va voir un professionnel du test, des laboratoires en Europe, essentiellement, il y en a quelques-uns en France, mais beaucoup en Europe. Et puis voilà, il y a un protocole pour les matelas, on va les soumettre à des tensions régulières pendant un certain temps, on va faire en accéléré, on va vérifier le lave-linge, la consommation d'eau, l'électricité, la tenue dans le temps. Tous les critères techniques sont passés en revue par des ingénieurs. Et après, en fonction des résultats, ce sont les journalistes qui vont le rendre accessible au lecteur pour expliquer, faire des tableaux comparatifs et produire une information qui est complètement digeste pour le commun des consommateurs.
Alain Bazot, vous parlez d'ingénieurs, mais quand vous faites des tests de produits alimentaires, est-ce qu'il y a aussi des gastronomes ? Par exemple, dans le dernier numéro, vous testez des produits premier prix, vous comparez les marques de distributeurs aux grandes marques. Est-ce que le goût entre en ligne de compte ou est-ce que vous comparez seulement la qualité ?
Ça dépend des tests, mais il arrive qu'on teste le goût également. À ce moment-là, j'allais dire, on sous-traite avec des professionnels. Par exemple, on a testé les champagnes. Mmh. Ah, c'est un peu courant, en décembre, on va tester les champagnes. Bon, eh bien, évidemment que ça va être des spécialistes. Et ce n'est pas des œnologues de l'association. On va prendre des associations indépendantes spécialisées dans le goût, tous les aspects organoleptiques. Mmh. Et à ce moment-là, on va sortir...
Je souris parce que votre association est déjà indépendante, mais vous prenez en plus des gens indépendants. Donc, ils sont même indépendants dans l'indépendance. Y a des surprises. Quelque chose m'a beaucoup amusé. C'est la une de Dernier que choisir. Produit premier prix, est-ce que c'est un bon plan? Le match face aux grandes marques. On apprend, vous parlez par exemple dans les lasagnes à la bolognaise, je dis ça pour les gens qui nous écoutent, on apprend que les lasagnes Lidl sont exactement les mêmes que les lasagnes Marie. Vous avez aussi testé les sauces bolognaises. Et là, c'est très intéressant. Votre préférée, celle qui est classée en premier, c'est la bolognaise Auchan. Et voici l'argument. La bolognaise Auchan arrive en première position parce que la viande a été en partie remplacée par des légumes moins chers mais meilleurs marché. Et là, on se dit, c'est militant. Parce qu'autrefois, il y avait des protestations parce que dans la bolognaise, il n'y avait pas de viande remplacée par des légumes. Donc, ce qui était un défaut il y a 10 ans est devenu une qualité aujourd'hui.
Mais on s'adapte aux demandes des consommateurs. Aujourd'hui, on est en pleine mutation, une consommation plus sobre. On est sur des combats sur la nutrition, l'équilibre nutritionnel. Et on voit bien qu'on mange trop de viande, objectivement. Mmh. Et donc, voilà, parmi les combats que l'on mène, c'est la transparence. Mais aussi, on a un engagement pour une consommation plus responsable, plus lucide, plus sobre. Et donc, voilà, le tout viande, ça ne va pas forcément ça qui va déclencher des critères numéro un dans l'analyse. Et ce qu'il y a, c'est qu'on rend visible l'invisible. C'est ça notre rôle. Des choses qu'on ne publie nulle part ailleurs, pas les professionnels eux-mêmes, qui sont souvent de l'opacité. Donc nous, on vient décrypter, on vient regarder le dessous des cartes, informer, conscientiser les consommateurs. On n'est pas des moralistes, hein, jamais, mais on donne les outils aux consommateurs de faire des choix éclairés. Et voilà, ça, c'est notre challenge, sachant que nous, on n'est pas partie prenante. Comme je l'ai dit, on est complètement indépendant. Donc, et on est expert, je l'ai dit, et donc engagé.
Vous n'êtes pas des moralistes. Dans le dernier numéro, pour corroborer ce que vous dites, le rédacteur en chef, Arnaud Deblot, comment on prononce ?
Arnaud Deblot.
Arnaud Deblot titre son édito catastrophique. Je le cite, entre spectacle, objet de consommation, le ballon rond est devenu l'otage de l'argent qu'il génère et des intérêts qu'il dépasse. La Coupe du Monde au Qatar l'illustre une nouvelle fois. Ce qui ne l'empêche pas de terminer son édito par cette phrase, en attendant, allez les bleus. Et page 37, vous testez les téléviseurs à écran plat.
Mais
donc,
voilà,
vous ne faites pas de moraline non plus.
Non, on ne fait pas de moralité. Cela dit, de plus en plus dans nos tests, on va intégrer pas seulement le rapport qualité-prix. Mmh. Ça, c'était les premières versions des tests. Aujourd'hui, le consommateur, il veut savoir d'où ça vient, dans quelles conditions c'est produit. Pas simplement si ça fait une belle image.
Alors justement, quelque chose qui m'a vraiment étonné, vous êtes parti en guerre récemment contre le site Back Market, qui pourtant fait quelque chose de vertueux, revendre moins cher des produits technologiques recyclés, des ordi, des tablettes, des téléphones. Plutôt que les jeter, on les revend. Et vous êtes parti en guerre contre eux. Racontez votre argument.
Je vois que rien ne vous échappe. Effectivement, l'idée du recyclage, du reconditionné, c'est une très bonne chose. Mais il faut que ce soit vendu dans des conditions transparentes et ne pas tromper le consommateur. Et quand un site dit que tel produit coûte 50% moins cher, il faut qu'il explique que c'est 50% moins cher par rapport à du neuf.
Bah, tout le monde l'avait compris.
Mais pas nécessairement. Mais non. On, vous savez,
alors, je ne suis pas très malin, mais ça, je l'avais compris.
Bah, vous savez, la moyenne du consommateur, elle n'est peut-être pas la vôtre. Je suis désolé de le dire. Mais il y a des techniques, vous savez, pour faire croire des choses à des gens. Bon, puis il y avait d'autres choses, hein, de pratiques commerciales trompeuses dans leur site. L'assignation, la plainte, elle est très longue, donc je ne vais pas vous la détailler ici. Donc oui, on soutient. Il ne faut pas que des offres qui sont vertueuses soient perverties par des méthodes commerciales qui ne sont pas...
D'un mot, parce que ça marche très bien, je suis obligé de vous interrompre, Alain Bazot, parce qu'on pourrait faire la matinée avec Que Choisir. Vous avez aussi un site internet et il est payant. Vous avez été parmi les premiers et ça marche.
Alors, il est payant. Il n'y a que 20% qui est payant, ce qui est à très haute valeur ajoutée.
Exactement.
On a des comparateurs.
C'est le comparatif qui est payant.
Bah oui, et puis des comparateurs interactifs où vous pouvez rentrer vos besoins et on va aller chercher quel est le meilleur opérateur de téléphonie, quel est le meilleur banquier, et puis une aide très précieuse pour changer d'assurance emprunteur. En moyenne, on fait économiser 6 000 euros aux consommateurs qui vont emprunter. Non, pour un consommateur qui va aller rechercher un autre contrat d'assurance pour son emprunt, Et en moyenne, on fait économiser 6 000 euros. Donc merci voilà, beaucoup. C'est un outil pour les consommateurs sans modération.
Merci beaucoup Alain Bazot. Je rappelle, vous êtes le directeur de la publication de Que Choisir et président de l'association UFC Que Choisir. Merci d'avoir été avec nous en direct ce matin dans Culture Média. Dans un instant, la productrice Caroline Delage, elle présente un doc qui associe le foot et l'autisme. Ça s'appelle 11 de légende. Et puis Bruno Donnet arrive pour ses télescopages. A tout de suite sur Europe 1.
9h, 11h.
Europe 1, Culture Média.
Philippe Vandel.
Bonjour Caroline Delage.
Bonjour Philippe Vandel.
Vous êtes journaliste, animatrice radio, animatrice télé, également productrice télé. Au tableau, c'est notamment vous. Et on vous reçoit aujourd'hui parce que vous êtes aussi la productrice de ce documentaire 11 de légende. Sortir l'autisme du banc de touche. C'est réalisé par Thomas Raguet. Ça sera diffusé ce soir en deuxième partie de soirée sur Canal+. D'abord, moi je le sais, qu'est-ce qu'un 11 de légende et qu'est-ce que votre 11 de légende à vous ?
Alors un 11 de légende, c'est une expression qu'on utilise souvent dans le foot. C'est une équipe mythique, un peu composée de joueurs rêvés, de joueurs stars. Donc nous, on a fait notre 11 de légende. On a fait une équipe rêvée parce qu'elle est différente, elle est originale, elle est inclusive, elle est composée pour moitié d'enfants autistes et pour moitié d'enfants pas autistes, donc on dit neurotypique, c'est le terme consacré.
Comment ça a démarré? C'est quoi le point de départ de ce documentaire? Pourquoi ce sujet?
Pourquoi ce sujet? Parce que on voulait servir du sport et du sport collectif qui est le foot pour essayer expérimenter en fait l'inclusion. Vous savez, moi j'aime bien dans les films que je fais mettre en place des expériences et faire un peu la preuve par l'image pour proposer des solutions. L'inclusion, c'est un sujet qui me tient vraiment à cœur, qui m'est cher. Quoi de mieux qu'un sport collectif dont les valeurs sont l'entraide, la solidarité, l'esprit d'équipe pour essayer dans un premier temps d'aider des enfants. Alors c'est compliqué, l'autisme c'est un monde entier, il y a autant d'autisme que d'autistes, c'est ce qu'on dit, mais il y a quand même quelques points communs, et notamment l'un des points communs, c'est cette difficulté dans l'interaction à l'autre, dans les relations sociales. Donc faire du foot à des enfants autistes, c'était un peu contre-intuitif.
Mais là, vous parlez comme si c'était vous qui aviez organisé cette équipe. C'est vous ou elle préexistait à votre documentaire?
Elle n'existait pas, on l'a mis en place avec la Fondation PSG. Ouais.
Parce que quand moi j'ai vu le doc et que j'ai vu le fond, la Fondation PSG, c'est bien ça.
C'est ça.
J'ai pensé que ça préexistait et que vous étiez venu vous greffer. C'est vous qui avez essayé.
On a mis en place l'expérience ensemble, voilà, avec la Fondation PSG.
D'accord.
Pour expérimenter l'inclusion. La Fondation PSG faisait déjà beaucoup de choses pour le sport adapté, donc avec des enfants handicapés, mais que des enfants handicapés qui jouaient au foot entre eux. Elle avait envie, la Fondation, d'aller vers l'inclusion, la mixité, sans forcément savoir comment s'y prendre. Donc on a mis en place l'expérience ensemble. C'est très inédit.
En quoi c'est inédit? Parce qu'on a déjà vu des autistes et avec des non-autistes, on a même déjà parlé ici. Qu'est-ce qu'il y a d'inédit qui ne s'était jamais fait? Pardon de ce pléonasme. En général, quand c'est inédit, c'est que ça ne s'est jamais fait.
Je crois que ce n'est pas très courant. Là, en plus, on a autant d'autistes que de non-autistes. Je crois que cette parité, c'est assez inédit. D'ailleurs, la première fois que j'en ai parlé à la délégation interministérielle à l'autisme, on m'a dit « c'est audacieux, c'est osé ». Bon, on va vous soutenir, mais et c'est vrai qu'on ne savait pas vraiment où on allait, nous, au départ. Et puis, comme j'étais en train de vous dire, faire jouer au foot des enfants autistes, c'est un peu contre-intuitif. Les faire jouer avec des enfants qui ne sont pas autistes aussi, c'est un peu audacieux. Et puis, alors après, en plus, l'objectif, c'est qu'ils disputent un tournoi avec les U9 du PSG, qui, eux, ne sont pas là pour rigoler, sont là pour être professionnels. Donc, tout ça, c'était une vaste aventure.
Mais je vais traduire pour qui ne connaît pas le vocabulaire du football. Les U9, c'est les under 9, c'est les moins
de 9 ans.
De 9 ans, c'est ceux qu'on appelait avant les Benjamins ou les Poussins.
Hein, exactement.
C'est les Benjamins, c'est ça.
Et c'est des futurs professionnels. En tout cas, c'est ceux à quoi ils aspirent. Ils s'entraînent plusieurs fois par semaine et le foot, c'est sérieux.
Alors, c'est la première fois dans ce documentaire avec des personnes autistes. Alors, ce ne sont pas les autistes que l'on désigne dans votre documentaire, mais ce sont les non-autistes ou les personnes, entre guillemets, valides. Dans 11 de légende, elles sont appelées les personnes neurotypiques.
Ouais.
D'où vient ce terme? Vous l'avez inventé ou c'est un terme américain?
Non, pas du tout. Non, c'est un terme. C'est compliqué de savoir. On va pas dire les personnes ordinaires. Parfois, c'est ça qu'on dit. Les personnes valides. Le terme consacré, qui n'est pas forcément scientifique, mais courant, c'est neurotypique versus neuroatypique pour les autistes. Les autistes sont des personnes neuroatypiques.
Pas répondu, d'où vient ce terme?
Eh ben c'est le terme,
c'est
ce
terme
sont
français.
Les professionnels, bien sûr. Ouais, ouais,
non, ça aurait pu être comme beaucoup de choses qui viennent des Américains.
Non,
les personnes de petite taille, c'est le politiquement correct américain.
Les experts qui nous accompagnent, qui sont spécialistes de l'autisme, c'est le terme qu'ils utilisent, eux. Les autistes sont neuroatypiques et les non-autistes sont neurotypiques.
Alors au début du documentaire, on demande aux enfants neurotypiques ce qu'est l'autisme. Écoutez leur réponse.
L'autisme, c'est des personnes qui ont une maladie, mais dans leur tête. c'est des gens qui réagissent autrement que nous et qui travaillent pas peut-être de la même façon que nous.
C'est le mental. Ils ont pas trop de mental.
Des fois, ils regardent un peu en l'air. Ils peuvent regarder par terre.
On entend pas très bien. Ou bien on a fait une grimace et ça a resté scotché sur toi. Quand on a des petits trucs comme ça. Par exemple, il y a un de mes tontons, il est autiste. Il est quand même autiste grave, hein, quand même. Il est bon autiste.
C'est quoi un bon autiste dans la bouche de cet enfant?
C'est ce qui est... Je pense que ça veut dire qu'il est... Parce qu'il y a évidemment plusieurs stades dans l'autisme, plusieurs degrés. Il y a des Nous, nos enfants sont principalement non-verbaux. Mmh. La plupart ne parlent pas. Il y en a qui parlent, donc c'est plus ou moins facile
de
les appréhender.
On voit premières séquences, ils ont déjà du mal à dire leur nom.
Voilà, à répondre à une question, à suivre des instructions. Ça, c'est aussi une des particularités des personnes autistes. C'est suivre des instructions, respecter des instructions, des consignes. Et dans le foot, il faut respecter les consignes de l'éducateur.
Je souris, il y a des pros qui n'ont toujours pas compris le hors-jeu, qui n'arrivent toujours pas à respecter cette consigne-là. Donc c'est d'une complexité extrême, justement, d'avoir choisi ce sport.
Et oui, et de faire jouer ensemble deux groupes très différents, parce qu'il ne faut pas que les enfants neurotypiques s'ennuient. Il faut qu'ils y trouvent leur compte. Il faut qu'ils aient... Parce qu'eux, ce sont tous des joueurs du club de Clamart. Ils jouent au foot, ils aiment le foot. Mmh. Donc, s'adresser à deux groupes aussi différents, avec des autistes qui n'ont jamais touché un ballon, avec des enfants qui sont passionnés de foot, et les faire jouer ensemble, c'était pas évident.
Et c'est même pas évident non plus pour les éducateurs et éducatrices. On en parle dans un instant. On est Caroline Delage, Culture Média continue. À tout de suite.
9h-11h, Europe 1 Culture Média. Philippe Vandel.
Dans un instant, nous sommes avec la productrice Caroline Delage pour nous parler du doc 11 de Légende. Mais d'abord, c'est l'heure des télescopages de Bruno Donnet. Bonjour Bruno.
Bonjour Philippe.
Tous les jours, Bruno, vous analysez ici les images les plus fortes de l'actualité. Et ce matin, vous vouliez vous arrêter sur l'expression de la censure qui sévit actuellement en Chine.
Oui, vous le savez Philippe, la régulation des images est en Chine un enjeu politique absolument majeur. Or, depuis quelques jours, le régime de Xi Jinping essaye, dans une manœuvre à la fois effroyable et pathétique, de tenir les images. Parler debout, je vous explique. D'un côté, la Chine tente de maîtriser les images venues de l'extérieur du pays, celles qui risqueraient de semer la zizanie et de contrarier la justification de sa politique zéro Covid. Alors, comme le JT de TF1 l'a rapidement montré lundi, elle manipule jusqu'à la réalisation des matchs de la Coupe du Monde de football.
Pour ne plus montrer aux téléspectateurs que le reste du monde vit sans masque, la chaîne d'État, ici à gauche, a coupé les images des supporters dans les tribunes.
Tous les plans sur des supporters démasqués sont en effet coupés par la télévision chinoise. Quick. Et sur Twitter, Antoine Morel, qui est le correspondant de France 24 à Shanghai, l'a d'ailleurs parfaitement démontré en coupant son écran en deux. Il a montré d'un côté ce que l'on a vu sur TF1 au moment du premier but de la rencontre France-Danemark.
Centre de Hernandez. Y a-t-il hors-jeu? Peut-être pas. Pour l'instant, le drapeau ne s'est pas levé pour l'ouverture du score de qui? De Kylian Mbappé.
La réalisation internationale reprise par TF1 montrait à ce moment des images de supporters exultants et qui ne portaient pas de masque. Et puis, de l'autre côté de l'écran, il a montré cette fois la réalisation que la chaîne CCTV a offert aux Chinois.
Sur cette chaîne-là,
il n'y a pas eu la moindre image du public. Les plans se sont longuement attardés sur Didier Deschamps et sur le stade, vu d'en haut, de très haut d'ailleurs. Le réalisateur chinois utilise en effet très régulièrement une caméra accrochée en haut du stade qui permet de diffuser un plan large du terrain qui ne montre que les joueurs et jamais les supporters. Voilà donc pour les images venues de l'extérieur du pays. Toutefois, le régime chinois essaie aussi de tenir l'autre bout de la ficelle est de réguler les images de l'intérieur, celles de son propre pays.
C'est génial ce qui se passe!
Des centaines de jeunes ont envahi les trottoirs. Une première depuis les événements de Tiananmen.
Voilà, vous savez que les manifestations font rage en ce moment dans toutes les grandes villes chinoises et la contestation a pris la forme d'une image, d'un symbole sur lequel, comme l'a fait la chaîne britannique BBC News par exemple, les télévisions du monde entier ont choisi de s'arrêter.
It's being described by some as the white paper or A4 revolution.
Et ce symbole, Philippe, c'est une feuille blanche, une simple petite feuille A4 sur laquelle il n'y a strictement rien d'inscrit et que les Chinois brandissent pour illustrer l'interdiction qui leur est faite de dire quoi que ce soit. Mais bien qu'il n'y ait absolument rien d'écrit sur leurs feuilles, les images de ces milliers de Chinois qui les portent fièrement au-dessus de leur tête sont fortes, saisissantes et tellement symboliques qu'elles sont en train de faire le tour du monde.
Arrêtez les confinements.
Alors, dans une manœuvre aussi désespérée qu'absurde, le régime chinois vient à son tour de composer une image absolument iconique de la censure qu'il exerce. Une censure poussée jusqu'à un paroxysme totalement désopilant. Cette image, je vous la raconte, elle a été filmée dans la ville de Nanjing, c'est tout à l'est de la Chine. Une étudiante tient une feuille blanche au-dessus de sa tête. Un policier la voit et lui confisque alors sa feuille, vierge de toute inscription. Mais la jeune femme reste immobile, exactement dans la même position. Ses mains restent donc au-dessus de sa tête, sauf qu'elles ne tiennent plus rien. Merveilleuse séquence totalement iconique qui met en abîme une censure qui n'a plus aucun sens et qui illustre magistralement que lorsqu'il n'y a plus de mots, il reste encore le silence et la force des images.
Merci beaucoup Bruno Donnet.
9h-11h,
Europe 1 Culture Média,
Philippe Vandel.
Toujours avec Caroline Delage, je rappelle, on parle de ce doc qui passe ce soir sur Canal+ à 22h40, 11 de légende dans lequel vous faites jouer des enfants autistes et des enfants non autistes avec ce terme que je vous laisse définir.
Neurotypique, c'est pas si compliqué. Hein.
Neurotypique. L'une des éducatrices avoue que dans ce programme, ils n'ont pas, je cite, les enfants autistes les plus faciles. Qu'est-ce que ça signifie?
Ça signifie que la plupart sont non-verbaux, donc... La communication est encore moins facile parce qu'ils ne peuvent pas s'exprimer, en tout cas par les mots, donc ils s'expriment différemment. Que certains peuvent faire des crises, que d'autres ont du mal à rester sur le terrain, chacun sa spécificité, mais il y a des, je ne sais pas si on peut appeler ça des degrés de sévérité dans l'autisme, mais ceux qui sont avec nous sur le terrain ne sont pas forcément les plus faciles à prendre en charge.
Pour les éducateurs.
Ce ne sont pas les plus difficiles non plus.
Voilà, il y a aussi des cas encore plus difficiles. Bien malheureusement, sûr. Je connais des parents. Pour les éducateurs sportifs et autres coachs, ça n'a pas toujours été simple non plus d'apprendre aux enfants autistes, à jouer avec les autres pendant des longues minutes, des heures, parce qu'ils n'ont pas toujours la même perception du temps. On va entendre Audrey Leuyer, elle est éducatrice, elle raconte comment elle a vécu sa rencontre avec l'autisme.
Ces comportements sont déstabilisants les premières séances parce qu'on ne connaît pas les profils, on ne connaît pas les enfants. On n'a pas du tout cette approche de l'autisme sur le terrain. Est-ce qu'on y va? Est-ce qu'on le laisse? À quel moment du coup on le ramène? C'est toutes ces petites questions qui se posent quand on est coach.
Les éducateurs spécialisés que vous filmez, est-ce qu'ils ont reçu une formation particulière?
Alors, les éducateurs qui sont sur le terrain, qui mettent en place cet entraînement de foot, ce sont ceux de la Fondation PSG. Ils sont formés pour être éducateurs, mais ils ne sont pas du tout formés à l'autisme. On s'est fait accompagner dans cette expérience d'experts, vraiment, qui, eux, sont spécialisés en autisme. Donc, Théo Fouché, qui est éducateur sportif, Cyril Dergui, qui est maître en psychologie et spécialiste de l'autisme et de l'inclusion, qui nous ont aidés à mettre en place ce programme, qui ont formé les éducateurs, et puis qui nous ont accompagnés tout au long de cette expérience, parce qu'on a rencontré différentes crises, plusieurs difficultés à surmonter, et on a eu besoin de leurs conseils et de leur accompagnement.
Ce qui est très intéressant, puisque vous parlez de crise, Caroline Delage, ce qui est passionnant aussi dans ce documentaire, c'est qu'il n'est pas béni oui-oui. On voit des enfants atteints de troubles autistiques s'en prendre à d'autres. Ils ne sont pas toujours les pauvres petites victimes innocentes.
Exactement.
Ils sont aussi parfois les méchants, si j'ose dire. Ils ne sont pas seulement les gentils.
Bah oui, on a Rohan, qui est un des leaders du groupe, qui est vraiment en foot, qui est un garçon très intelligent, très attachant, et qui a besoin d'attention, qui a une difficulté de concentration. Et sa façon d'essayer d'attirer l'attention sur lui, d'un enfant en particulier, sur lequel il a vraiment jeté son dévolu, eh bien, c'est de le frapper. Donc une fois, deux fois, trois fois, et au bout d'un moment, les parents du petit Clément qui se fait frapper nous disent, nous, on va pas pouvoir laisser notre enfant dans une activité où il est en danger, où il se fait frapper. Donc il a fallu résoudre ça, évidemment, sans exclure l'enfant qui avait un comportement inapproprié. Il a fallu trouver les outils pour arriver à les faire jouer ensemble. Et sans dévoiler la fin du film... On a versé des larmes sur le terrain à la fin quand on a vu le chemin qu'ils ont fait.
On va entendre justement les éducateurs qui ne savent plus trop comment agir envers Rohan. Ils se posent beaucoup de questions.
Je le vis difficilement parce qu'on se pose des questions. On se dit comment on peut l'aider à arrêter de se fixer sur Clément et d'aller voir peut-être d'autres jeunes, d'autres enfants.
On se pose aussi la question en fait, de sa poursuite dans le projet. On se laisse un petit peu de temps avant de pouvoir vraiment donner une décision.
On se rend compte qu'il faut qu'on lui apporte quelque chose, des outils, des repères pour le canaliser parce qu'il a un profil très intéressant. Rohan a un profil sportif qui est aussi moteur et leader du groupe.
Quelle a été l'histoire, la suite de l'histoire, la relation entre Rohan et Clément?
Vous voulez que je vous dévoile la fin du film?
Un petit peu, mais comment c'est terminé?
Non, bah, on a mis en place des outils pour que Rohan apprenne à se canaliser, pour qu'il réussisse finalement à faire ami-ami avec Clément, mais d'une autre façon que par la violence. Et Clément aussi, qui surréagissait, a lui aussi appris. Donc chacun a fait un pas vers l'autre. Et c'est vraiment ça l'histoire de 11 de légende. C'est que les enfants autistes, les enfants neurotypiques, chacun fait un pas vers l'autre. Et ce qui est fondamental pour moi, c'est que parmi les experts, je vous ai cité les spécialistes en autisme, mais on a aussi une pédiatre qui n'est pas du tout spécialiste de l'autisme, qui elle était chargée de suivre les enfants non autistes, les neurotypiques en particulier, parce que ce que je voulais montrer, et avec Thomas Raguet, le réalisateur, ce qui nous tenait à cœur, c'était de montrer que l'inclusion, elle est bénéfique à tous. Et le chemin que font les enfants neurotypiques, l'estime de soi qu'ils gagnent, les progrès qu'ils ont à la fin de l'expérience, sont vraiment la preuve que l'inclusion, elle est bénéfique à tous.
Comment avez-vous choisi les enfants et aussi peut-être les parents qu'on voit dans ce doc 11 de légende?
Les enfants neurotypiques sont tous membres du club de foot de Clamart. C'est la ville de Clamart qui nous accueille sur ce magnifique stade de la Plaine. Donc ils sont tous déjà footeux, si je peux dire. Et ils ont rajouté un entraînement à leur emploi du temps le mercredi matin pour jouer avec des enfants différents. Les enfants autistes viennent d'un peu partout. On s'est adressé à plein d'associations. Certains sont pris en charge dans des IME, d'autres sont scolarisés, d'autres sont au silence des justes. Enfin, il y a plein de prises en charge différentes. Chaque enfant a une situation différente. Donc, ils viennent d'un périmètre un peu plus large.
C'était difficile ? Ou est-ce qu'au contraire, les parents avaient envie que leurs enfants passent à la télévision pour leur faire une nouvelle expérience, pour s'ouvrir?
Je pense que passer à la télévision, on est loin. Les enfants des parents autistes, déjà, qu'ils aient accès à une activité, déjà pour eux, c'était presque inespéré pour certains. Donc l'objectif, ce n'était pas qu'ils passent à la télé, mais qu'on leur propose un entraînement de foot, eux qui ne sont pas inclus dans la société, eux qui n'ont pas accès à ces activités en général. Et là, qu'on vienne les chercher, qu'on vienne les proposer, il y a la maman d'un des enfants autistes qui a pleuré quand on l'a appelé, qui nous a dit « c'est la première fois que mon fils est accepté quelque part ». Donc ça, ils n'ont pas beaucoup d'offres. Et le fait de leur proposer une activité sportive où ils vont pouvoir prendre du plaisir et qu'ils vont jouer avec des enfants valides, c'était pour eux une chance et on n'a pas eu beaucoup de mal à les convaincre. Là où je m'inquiétais un peu plus, c'était pour convaincre les parents des enfants non autistes qui, eux, font déjà du foot. Donc, il n'y avait pas cette motivation. J'étais assez surprise de voir l'engouement, l'enthousiasme, le volontariat des parents et des enfants. Les parents qui avaient envie d'ouvrir leur enfant à la différence et les enfants, eux aussi, qui avaient envie d'aider d'autres qu'eux.
On va entendre des parents, on va entendre les éducateurs qui demandent justement aux parents d'enfants autistes ce qu'ils retiennent de cette expression. On les écoute.
Et alors si on devait réfléchir ensemble à quelle serait une attente particulière par rapport à la participation de vos enfants à ce projet, ça pourrait être quoi?
Bah, qu'ils en retirent de la fierté.
De la fierté?
Bah oui, c'est quand même important en termes de confiance en soi, le fait d'avoir démarré, d'avoir une fin, d'avoir un produit, d'avoir quelque chose.
Je pense que la fierté, c'est plus pour nous, les parents. Parce que ce sentiment-là, je ne pense pas que Noé le connaisse. En revanche, ce que je peux constater, c'est sa joie. Il est très joyeux, ça lui plaît énormément de venir ici, de jouer avec ses copains.
Et puis on découvre aussi le parcours du petit Béram. Il a une dizaine d'années, je ne suis pas sûr de son âge. Il va arrêter le projet avant la fin parce qu'il n'a plus envie de faire partie du 11 de légende. Oui.
Mais ça, ce n'est pas un échec en fait. Justement, c'est ce que je vous disais, on ne leur propose pas beaucoup d'activités. Ils n'ont pas accès à ces activités. Lui, Béram, il a eu la chance de pouvoir essayer. Qu'on lui laisse le temps de s'habituer à cette différence, à ce changement dans son quotidien, dans son emploi du temps. On lui a laissé plusieurs séances. Il a fait des progrès. On a réussi à le ramener sur le terrain. Au départ, il ne voulait pas y aller ou il s'enfuyait tout le temps. Il a même tiré dans le ballon pour la première fois, marqué des buts, pris du plaisir. Mais bon, au bout d'un moment, il nous a exprimé qu'il n'avait pas envie d'être là. D'ailleurs, il l'a dit clairement, il est non-verbal. Mais quand je lui ai dit « ça va, Béram ?» Non. T'es content d'être là? Non. Donc on s'est dit, on lui laisse le luxe de refuser, de choisir une autre activité. Tous n'ont pas la chance d'avoir ce choix-là. Donc c'est pas un échec, ça fait partie de l'expérience.
Et je vais parler d'autres activités. Vous êtes aussi la productrice d'une émission emblématique qui s'appelle Au tableau. Je rappelle, ce sont des people, mais surtout ce sont des hommes politiques qui vont devant des classes d'enfants et qui évidemment leur posent des questions sans filtre. Et comme ce sont des enfants, l'homme politique ne peut pas dire « je ne réponds pas à cette question » ou « mais vous n'avez pas honte ». Est-ce qu'il y aura d'autres numéros d'Au tableau, Caroline Delage?
Alors en France, je ne sais pas, pour l'instant c'est pas au programme, mais en revanche vous savez que j'ai le bonheur d'avoir exporté ce format dans 10 pays, 10 adaptations, deux nouvelles adaptations sont en cours, une qui est déjà en diffusion en République tchèque, parce qu'il y a une élection en République tchèque, donc les candidats sont en train de passer au tableau devant les enfants tchèques, et puis une à venir en Finlande.
Extraordinaire. Merci beaucoup d'avoir été avec nous. Je rappelle, votre actu, c'est ce soir à 22h40 sur Canal+, 11 de Légende. Merci beaucoup Caroline Delage d'avoir
merci
été
Philippe.
Avec nous. Culture Média continue évidemment. Après les infos de 10h, nous serons avec le comédien José Garcia pour un thriller, Le Torrent. Ça sort aujourd'hui en salle, c'est avec André Dussoli et Ophélia Kolb. Et puis dans les indispensables, Stéphanie Loire va nous faire une sélection de livres sur le rap à offrir à Noël. Et on va parler littérature, mais cette fois-ci la vraie, avec Nicolas Caro. Jean-Luc Lemoine arrive, lui aussi c'est un littéraire dans son genre, pour sa session de rattrapage. À tout de suite.